Bonsoir à tous. Il est 6 heures passées de quelques minutes, donc je pense qu'on peut commencer. Les retardataires prendront en cours. Donc merci d'être venus. Je me présente très très rapidement, Anne-Sophie Novel, donc fondatrice du site Écolo Info. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site d'information sur l'écologie et le développement durable. Et nous organisons ces conférences tous les deux mois avec la librairie Mola depuis le mois de septembre. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Noala, qui va nous parler donc de son ouvrage et de son documentaire sur les déchets et le cauchemar du nucléaire. Donc tout d'abord, quelques petits mots d'introduction. Pourquoi cette conférence ? Alors j'ai envie de dire après Copenhague, où nous étions sur place toutes les deux d'ailleurs pour couvrir l'événement en décembre dernier, et j'ai envie de dire aussi avec le froid actuel, les enjeux énergétiques mondiaux sont d'autant plus d'actualité. Lorsqu'on sait, comme le rappelle Hubert Reeves d'ailleurs dans la préface du livre de Laure Noala, que la consommation énergétique mondiale équivaut à ce que fourniraient 13 000 réacteurs nucléaires en fonctionnement permanent, et que la dépense, en fait, la consommation énergétique mondiale est en hausse constante. Alors je crois qu'Hubert Reeves donne un chiffre, il dit en gros la consommation énergétique augmente d'un facteur 10 tous les 100 ans. Il est d'autant plus important de parler de ces sujets-là. Donc c'est ce que Laure Noala a fait pendant 2 ans, je crois, une enquête de 2 ans facilement. Donc un sujet qui vous passionne. Donc Laure Noala est journaliste à Libération et co-auteur du film donc Déchets, le cauchemar du nucléaire avec le réalisateur Éric Guéret. Donc c'est un documentaire qui est passé en octobre dernier sur Arte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, et donc le livre raconte toute cette enquête. Donc nous sommes ravis d'accueillir Laure Noala ce soir. Donc pour nous décrire un petit peu cette enquête. Et j'ai envie dire dès le départ, Laure, vous insistez sur le fait que vous ne placez pas votre enquête dans l'ordre du nucléaire émotionnel. Pourquoi et qu'est-ce qui a motivé cette enquête ?
Déjà, bonsoir. Merci à vous d'être là, parce que c'est toujours des sujets qui déplacent peu de gens. Sinon, on n'aurait pas 58 réacteurs en France en fonctionnement. Je suis vraiment très contente que vous ayez fait cet effort. Donc, je vous remercie déjà. Je suis venue en train électrique qui fonctionne au nucléaire de toute façon, donc on a tous fait un petit effort. Alors le nucléaire émotionnel, j'aimerais le définir déjà. En fait, ça fait 10 ans que je travaille à Libération sur les questions environnementales, et un des sujets, transperçants, enfin qui m'a transpercée, c'était Tchernobyl. J'y suis allée la première fois en 2002, puis en 2003, enfin j'y suis retournée une bonne demi-douzaine de fois. On ne peut pas dire autre chose que... pour qualifier nucléaire émotionnel, c'est plutôt à Tchernobyl que ça se situe quand on est dans une zone où on constate et on comprend que la radioactivité est quelque chose d'indolore, incolore, inodore, inodore et incolore déjà, qui ne se voit pas, qui ne se sent pas. Et pourtant, elle est là, enfin, elle est très présente, puisque quand vous y allez avec un compteur, un mini-compteur, ça crépite, ça monte, ça descend, ça dépend des espaces où vous vous situez, où vous bougez, et vous ne comprenez pas, parce que tout le monde sensible qui est autour de vous ne vous donne pas cette indication. Bon, c'était le nucléaire émotionnel, donc on pleure, on se dit que c'est dégueulasse, on se dit qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des territoires contaminés pour 3 siècles au moins, que c'est de la faute de personne, mais qu'en même temps c'est de la faute de tout le monde, elle est collective, et voilà. Et puis, au bout de quelques années d'imprégnation de nucléaire émotionnel. Je ne sais pas, il s'est passé une révolution. Je suis allée en août 2005 devant le sarcophage. La flèche qui était rentrée quelques années avant est ressortie. Je me suis dit, OK, en même temps, le nucléaire, ce sont des faits. Donc, regardons les faits objectivement. Alors, Anne-Sophie parlait de 13 000... Hubert Reeves, dans sa préface, mentionne 13 000 réacteurs en fonctionnement pour subvenir aux besoins mondiaux énergétiques. Bon, heureusement, on n'a pas 13 000 réacteurs, on n'en a que 450 en fonctionnement dans le monde. Mais Bon, il y a des faits, il y a des chiffres. Et puis, comme c'est une énergie qui dépend de fonds publics pour la plupart, on peut la soumettre au même régime que toutes les autres énergies. Enfin, il faut la passer au même tribunal, quoi. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est chère? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce que c'est l'unique solution? Est-ce qu'elle est pertinente, quoi? Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le nucléaire factuel. Et c'est ce qui a, en fait, motivé l'enquête. Alors, très franchement, l'enquête à l'origine, c'est un désir d'Arte. Donc, faut aussi quand même saluer le fait que certaines chaînes posent 500 000 euros sur la table pour financer une enquête d'un an. Enfin, un an, mais aussi des années de travail en amont, de toute façon, parce qu'on n'arrive pas, on ne déboule pas sur un sujet comme ça pour enquêter, tourner 6 mois, monter 3 mois. Enfin, il faut avoir un peu comprendre 2-3 choses avant. Donc, c'est des années de travail. Merci Libération. Et puis, c'est aussi cette chaîne qui a bien voulu prendre ce pari et qui voulait au départ un film sur la démocratie et le nucléaire. Et au départ, le film s'appelait Déchets nucléaires, enfin Déchets, la démocratie enfouie. C'était le présupposé, puisque au fil de la pré-enquête, on s'était rendu compte qu'à chaque fois qu'on consultait les populations dans un processus démocratique fiable, on obtenait une résistance, si ce n'est un refus assez catégorique de la part de ces mêmes populations dans les pays nucléarisés. Donc voilà, on est parti un petit peu avec ça, avec une chaîne qui nous a dit ben, « on vous donne les moyens », avec un producteur qui nous a dit « on vous suit aussi, on vous donne les moyens », et puis quelques étapes qui nous ont amenés dans le berceau du nucléaire mondial, aux États-Unis, à Hanford, mais aussi en Russie, lieu de la première explosion nucléaire accidentelle à Muslimovo, et puis en France, à Bure, etc. Puis au fil des voyages, de toute façon, on s'est posé la question principale qui était qu'est-ce qu'on fait des déchets? Quelles sont les solutions? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça va coûter aux générations futures? Quel poids, quel héritage leur livre-t-on? Et voilà. Et puis, on posait ces questions un peu partout. Donc, on avait un peu des réponses similaires un peu partout. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas de scoop.
Et est-ce qu'on peut justement revenir un petit peu sur les conditions de l'enquête? Est-ce que ça a été facile? Comment est-ce qu'on prépare ce type d'enquête? Et après, seconde question, quelles sont vos principales découvertes, en fait, en résumant rapidement le livre?
Ouais, alors, en fait, d'un point de vue logistique, comme je viens de vous le dire, entre Arte et Bonne Pioche, le producteur, on avait des moyens assez larges. On était vraiment soutenus. En termes de logistique, pas de problème. Après, pour l'enquête, évidemment, on peut pas en France faire ces genres de déplacements, d'interviews sans consulter EDF, Areva, et puis les sites nucléaires, c'est EDF ou Areva en France, donc ou l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Donc, on n'a pas trop le choix, il faut s'adresser à eux. Et dans un premier temps, nous sommes adressés à Areva, qui nous a dit oui, bien sûr, on vous ouvre tous nos sites. Donc, si vous voulez aller à La Hague, on vous ouvre les ports de La Hague. Si vous voulez aller à Marcoule, Super Phoenix, on vous ouvre Marcoule. On voulait aller à Pierrelatte, lieu d'entreposage de l'uranium de retraitement. J'espère que vous me suivez et que vous n'êtes pas déjà perdu. Ils ont dit oui, bien sûr, venez à Pierrelatte. Voilà, donc au départ, c'était cordial. Et puis on est allé filmer à La Hague et on a posé 2-3 questions qui ont déplu et les portes de Pierrelatte, Marcoule, Super Phoenix se sont fermées derrière et on les a traités de procureurs. Ça c'est pour la France. Ensuite pour les États-Unis. Alors c'était l'administration Bush à l'époque, parce qu'on a tourné en 2008, début 2008, et on n'a eu aucune autorisation d'accès à aucun des sites qu'on avait sélectionnés. Donc il y avait Savannah River du côté de la côte. Est, qui est un site militaire. Les deux sites militaires, Hanford, berceau du nucléaire mondial, d'où est sorti le plutonium qui a servi à la bombe de Nagasaki. Savannah River, où on entrepose la plupart des déchets militaires nucléaires américains, Dieu sait qu'il y en a. Et puis Yucca Mountain, qui est la montagne pressentie pour accueillir les 60 000 tonnes de déchets de combustible irradié américains. Aucun site ne nous a été ouvert, donc on a un petit peu grugé, on est passé autour. Et puis pour la Russie, bon bah là, je vais pas vous faire un tableau. On va pas sur un site en Russie parce que par définition, ce sont des sites militaires essentiellement, même si ce sont des sites producteurs d'électricité. Et ces sites sont absolument fermés à tout public, tout étranger, de toute façon, aux journalistes encore plus, et même de toute façon aux personnes qui travaillent. Vous savez, on a des conseillers nucléaires dans toutes les ambassades de France, des pays nucléarisés. Donc même le conseiller nucléaire de l'ambassade de France en Russie ne peut pas accéder à certains des sites. Voilà. Donc de toute façon, nous n'avions pas de grande latitude dans ces sites-là. Mais nous sommes adjoints les services de la CRIRAD, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, née au lendemain de Tchernobyl, et qui est agrémentée pour faire des mesures qui correspondent à tous les protocoles en vigueur pour faire des mesures, mais en faisant des prélèvements dans la nature, donc au niveau des eaux, des végétaux, de la terre, des sédiments. Et voilà, on a même acheté des bouteilles de vin qui étaient issues, dont le raisin était issu de vignes face à Hanford. Voilà, ils ont même mesuré les taux de tritium présents dans le vin d'Hanford. Donc voilà, on était avec eux et en étant autour des sites, finalement, ça nous suffisait parce que dans les sites, on n'aurait pas pu voir grand-chose, on aurait été cornaqué. À l'extérieur des sites, on faisait nos prélèvements, on était dans une relative liberté, discrétion également, mais on a pu ramener des prélèvements, des échantillons, et c'est ce qui donne la force de ce documentaire qui est à la fois une enquête politique, mais également scientifique, parce qu'on a des éléments tangibles à rapporter. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le livre, je ne l'ai pas dit, mais la lecture est très fluide et c'est vraiment passionnant. Mais quand vous êtes aux États-Unis, ce qui est rigolo, c'est qu'on sent qu'il y a de la fierté. Enfin, vous racontez la fierté qu'ont les Américains qui avaient été Ford par rapport au nucléaire. Et ça fait vraiment en écho et en reflet par rapport au secret qui entoure le sujet en Russie et en France. Alors.
Aux États-Unis, il y a une séquence qui n'est pas dans le film, mais effectivement, c'est un paragraphe du livre. C'est sur la ville de Richland, qui est voisine du site nucléaire d'Hanford. Richland, c'est à peu près 30 000 habitants. Et la fierté se traduit par l'étalage infini de mushroom clouds, de champignons atomiques, sur les cartes de visite des taxis, dans la brasserie où vous pouvez commander une pizza positron. L'emblème de l'équipe de foot du lycée, c'est un champignon atomique. D'ailleurs, ça a failli provoquer un incident diplomatique parce que quand des Japonais sont passés en car pour visiter la région et qu'ils se sont rendus compte que c'était un élément de fierté nationale, enfin en tout cas locale, alors pour eux, c'est un symbole de mort. On a quand même Nagasaki plus Hiroshima, plus de 120 000 morts. On est dans une ville. J'ai même vu dans la fameuse brasserie où on peut boire des plutonium porter. Ils font des bières qui s'appellent plutonium porter. C'était pas l'effet de la plutonium porter, mais dans les toilettes, j'ai croisé un ado qui avait un atome cerclé d'électrons tatoué sur le cou. Voilà, on est de toute façon, dans cette région. Une personne au moins par famille a travaillé soit à la confection d'Hanford, la construction des 9 réacteurs au plutonium quand même, 9 réacteurs où on brûlait de l'uranium pour produire du plutonium, ou au nettoyage du site, parce qu'il faut bien savoir que ce site ne fonctionne plus, aucun réacteur ne fonctionne aujourd'hui, tout est fermé, mais il faut dépolluer. Alors les gros contrats, c'est Westinghouse, c'est Areva. Et c'est des jobs pour des centaines d'années. Et encore, je suis assez gentille en vous parlant de centaines d'années. Je ne crois pas qu'à Hanford, on connaisse la crise aux États-Unis actuellement.
Et en Russie, donc
Alors la Russie, le secret. De toute façon, ça démarre en même temps. Hanford, on est au berceau du nucléaire mondial. On est dans ces sites où on produit le plutonium pour l'arsenal militaire. En face, il est hors de question de se laisser distancer. On veut sa bombe aussi, plus vite possible. Donc on construit des sites. Les sites ne sont même pas sur des atlas pendant très très longtemps, pendant 3-4 décennies. Et puis, on construit des usines dans le plus grand secret. Ce sont des villes atomiques, quasiment, les Atomgrad, on dit en russe. On y trouve les écoles, les théâtres, les garderies, les hôpitaux, pour faire entrer sa famille. Alors, on y vit bien. On peut avoir des voitures, alors qu'à côté, dans l'URSS, le soviétique de base, oui, il est sur une liste d'attente de 10 ans pour avoir une voiture. Donc, on a des voitures, on peut inviter sa famille pour venir, éventuellement on a un peu plus d'argent, on est bien payé, on a la sécurité de l'emploi et on travaille effectivement à la confection de l'arsenal militaire soviétique pour nous faire pénétrer, excusez-moi, dans cette fabuleuse ère de la guerre froide.
D'accord. Et donc les principales découvertes que vous avez faites tout au long de cette enquête, si on peut les résumer en quelques points.
Deux. La première, c'est que très naïvement, je pensais qu'il n'y avait qu'un Tchernobyl. Bon, il y a eu un pré-Tchernobyl, il y a eu Mouslimovo, explosion en 1957 d'une cuve de déchets hautement radioactifs, et donc un nuage. La moitié de la taille de Tchernobyl qui commence à survoler une région. On est à Tcheliabinsk, dans les contreforts de l'Oural. Alors, le classique, soviétique ou russe, on vous laisse une population à l'air libre, une espèce de cobaye, 30 000, 300 000 personnes. Les chiffres sont assez vagues. On sait qu'on a une cohorte de 30 000 personnes dont on observe l'état de santé, dont on surveille l'état de santé depuis plus de 50 ans. Voilà, donc déjà, là-bas, on a retrouvé du plutonium quand même dans des villages. Enfin, on s'est promené avec Christian Courbon, la CRIRAD, qui est... On est sur le bord d'une rivière, on voit des traces, on se dit que les gens viennent pêcher là, viennent cueillir des roseaux. Enfin, je veux dire, faut imaginer, on est dans une Russie, bien qu'elle soit forte, selon Poutine et Medvedev, une Russie qui ressemble sensiblement à la Bretagne des années 50, quoi. On est quand même, il y a quand même des carrioles avec des chevaux, des vieilles voitures, des gens bourrés dès 8 heures du matin, désœuvrés, et on n'a pas d'eau courante, on fait son potager, on est la décroissance. C'est l'autarcie, là-bas, c'est une vraie pratique. On a une vache, et la vache, elle va boire près de la rivière, elle va brouter l'herbe qui pousse sur les rives, et le lait est bourré de césium et de strontium. Le plutonium, on l'a trouvé dans les sédiments, dans la terre, les sédiments qui sont dans le lit de la rivière. Plutonium, quoi, 239 et 240, fait partie quand même des éléments radiotoxiques, des radios les plus toxiques que la Terre porte quand même. Et puis des centaines de personnes qui vivent là, des milliers de personnes même qui vivent là, des enfants qui se baignent là l'été parce qu'il fait très chaud. Bon voilà, premier enseignement, il n'y a pas qu'un Tchernobyl, il y en a deux, et le cynisme n'a aucune limite, et peut traverser les âges et les chapelles politiques. Ça continuera encore longtemps. Et puis, deuxième enseignement, ça concerne plutôt le nucléaire propre, occidental, non russe en tout cas, et français, qui est celui qu'on nous vend, puisqu'on nous dit que le nucléaire est une énergie recyclable à 96%. Donc, nous, on n'est pas physicien, on n'est pas ingénieur, mais on est bon en maths. 2 plus 2, ça fait 4, ça on le sait, c'est le truc qui ne bougera pas. On a commencé à décortiquer les 96%. On nous dit qu'on peut réutiliser 96% des matières radioactives. Très bien. En théorie, en suivant et en décortiquant tous les processus qui nous amènent au recyclage, au réusage de ces matières radioactives, on arrive maximum à 10%. Et dans ce qui a été effectivement réutilisé en 2007, c'est pas nous qui donnons les chiffres, c'est EDF, on a atteint 1,4%. Il y a juste un super écart entre 96 et 1,4%. Voilà. Et ce 1,4%, il est payé par nous les contribuables, mais il est aussi payé et fait fourni par l'usine de La Hague, qui est une usine qui coûte 1 milliard d'euros, qui a 1 milliard d'euros de fonctionnement annuel, qui pèse vraiment à EDF, qui est l'espèce de vitrine de la technologie d'Areva. Et voilà. Et donc, tout ça, vous allez dire, ouais, mais attendez, c'est une militante, nanani. Non, là, c'est des faits. Et à partir de ces faits, On peut être libre de penser qu'il faut quand même y aller, qu'il faut peut-être pas y aller, qu'il faut... Voilà. Au passage, on envoie des matières en Russie que l'on laisse stocker en Sibérie. Alors apparemment, ça gêne pas les Russes parce que les contrats doivent être assez conséquents, mais et que le territoire est vaste et que la population peu regardante. En tout cas, peu consultée. Et donc, nous, ça nous pose quand même des questions.
Et au-delà donc, de cette arithmétique du nucléaire, tout ce qui est question de transparence, de démocratie, principales observations à ce niveau-là, il y a des grandes conclusions quand même dans votre ouvrage.
Bon, ce n'est pas un scoop non plus. On est parti quand même avec un présupposé qui était bon quand même, le nucléaire. Regardons en France comment ça s'est passé. Ça n'a pas vraiment été décidé par nous tous collectivement. Le risque qui est pris est collectif. Le coût est supporté collectivement, mais la décision de le faire ou pas n'a pas été prise collectivement. D'ailleurs, on ne nous a pas donné les informations. En fait, depuis la sortie du film, on nous a beaucoup accusés d'être des militants. Alors, bon, c'est toujours amusant d'être traité de militant par ceux qui défendent l'industrie, qui fait que c'est comme ça qu'ils vivent. C'est-à-dire que nous, on vend pas les centrales, on vend pas l'usine de retraitement. On serait vraiment ravis que la technologie soit d'une efficacité irréprochable. On serait ravis qu'elle soit pertinente d'un point de vue économique et pertinente d'un point de vue énergétique. Je vous rappelle que même en période de pointe, on continue d'importer de l'électricité. On serait vraiment ravis de ça. Donc, enfin, c'est tout ce qu'on désirait. C'était découvrir qu'on avait une solution, qu'elle était propre et sûre et prise par des gens compétents, experts, des sachants intelligents, quoi. Alors, on est peut-être des militants de la transparence, ouais. On est des militants de la transparence. On a voulu mettre bout à bout les questions qu'on soulevait. Et de toute façon, l'industrie nucléaire était forcée de répondre aux questions qu'on lui posait. Elle n'est pas forcée de répondre aux questions qu'on ne lui pose pas. Et nous, on a voulu se mettre dans la peau de ceux qui posent des questions. Bon, on avait bien une petite idée des réponses quand même. Ce serait un peu de mauvaise foi que de dire qu'on n'avait pas une petite idée des réponses. Mais on a été quand même assez désarçonnés par l'étendue du mensonge nucléaire, quoi. Voilà.
Et justement, qu'est-ce que le film et le livre a déclenché depuis que tout cela est sorti en octobre dernier ?
Alors des fois, il faut utiliser les armes qu'on a. Et bon, je travaille à Libé, donc parfois ça peut servir d'arme. Donc le mardi 13 octobre, le film passe sur Arte. Le lundi 12 octobre, on fait un événement dans Libé de 3 pages. Mais on envoie des matières en Russie. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que le retraitement est efficace? Etc. Badaboum, la secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Jouanneau, est invitée sur les ondes le matin très tôt pour dire, mais de quoi retourne-t-il? Elle bafouille, elle ne sait pas trop. Elle dit, j'ai demandé une enquête interne, externe, enfin, elle ne sait plus trop. L'après-midi du lundi, Jean-Louis Borloo saisit le Haut Comité pour la Transparence, la Sûreté et l'Information Nucléaire, HCSTIN. Bref, de ces acronymes que peut nous pondre l'industrie, le Haut Fonctionnaire d'État, le Haut Comité pour la Sûreté, la Transparence et l'Information. Bon, bref, vous aurez compris que c'est une instance donc multicollégiale avec des ONG en tant qu'observateurs, des hauts fonctionnaires du ministère, des industriels et puis des scientifiques issus du GSIEN, le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Bon. Monique Séné est une de ses leaders. Eh bien, le Haut Comité a été saisi et là, il a été exigé d'EDF qui présente des flux de matière. Qu'est-ce qui sort de vos centrales chaque année? Qu'est-ce qui part à l'usine de La Hague pour se faire retraiter? Qu'est-ce qui sort de l'usine de La Hague retraitée? Qu'est-ce qui part être stocké à Pierrelatte en attendant? Qu'est-ce qui part en Russie pour être alors réenrichi? Donc c'est le fameux processus qui fait qu'on est obligé d'envoyer ces matières en Russie puisque nous ne disposons pas, plus de 60 ans après avoir lancé la technologie, de la technologie en France. Et pourtant, ça fait un moment qu'on aurait pu la mettre en place, mais enfin, on l'a pas. Donc, on envoie en Russie. Qu'est-ce que vous envoyez en Russie? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui reste? À qui ça appartient? Bref, on a demandé tout simplement à EDF de faire l'inventaire de ces matières radioactives. C'est ce qu'on a fait dans le film. Hein. C'est ce qu'on a, on a fait un inventaire des matières radioactives. Et c'est pas très difficile. Enfin, on peut leur filer plein de tuyaux. C'est pas très difficile. Tout est collecté dans les registres de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. C'est recoupé avec deux, trois éléments d'EDF. Il suffit de leur poser la question. Quels sont les réacteurs qui fonctionnent avec des combustibles recyclés? Il y en a deux. C'est Cruas 3 et 4 sur 58 réacteurs. Bon, pourquoi? Pas de réponse. Comment ça se fait? Est-ce que ça vous coûte pas un bras, finalement, d'envoyer des choses en Russie pour finalement faire fonctionner deux réacteurs sur 58, si je ne me trompe, c'est à peine 4% du parc nucléaire. Hein. Donc, voilà, 4% du parc nucléaire, faut-il toute cette bauche d'énergie, de transport, de risques à prendre ou pas? Enfin, faut-il, encore une fois, faut-il? Est-ce pertinent? Et ben voilà, donc le film passe le mardi. Il y avait un débat à la suite du film, orchestré par PPDA, et on avait demandé à EDF de venir au débat. EDF avait refusé, et puis bah, suite au barouf, ils sont venus pour ne rien nous dire en fait de plus, sauf qu'on sent que ça les pèse vraiment d'avoir à recycler un combustible dont ils ne se servent pas. Ça les enquiquine même au niveau technique d'avoir de l'uranium de retraitement réenrichi dans le réacteur de Cruas 3 et 4. Ça, on le sait par des gens qui travaille au cœur des centrales concernées. Mais bien sûr, ils ne le diront jamais, parce qu'Areva, son cœur de métier, c'est le retraitement, c'est de faire fonctionner l'usine de La Hague. Alors, pour l'instant, l'uranium de retraitement qui rentre à l'usine de La Hague, il en sort à peu près 800 tonnes par an, et ben, il est stocké à Pierre-Latte. Et ce sont des stocks d'uranium de retraitement. EDF nous dit que c'est un bas de laine. Alors, le bas de laine pour l'avenir. Le bas de laine pour l'avenir, moi, ça me fait toujours penser aux emprunts russes de mon grand-père, qu'il avait gardé dans la cave, dans le grenier, pardon, et qui n'ont jamais servi, quoi. Voilà, le bas de laine, c'est l'inconnu, c'est le énième point d'interrogation sur l'avenir énergétique, sur l'avenir de ces matières, sur ça nous indique aussi qu'il y aura un manque de ressources sur l'uranium, donc on se prépare peut-être pas des guerres d'uranium, mais en tout cas des conflits très serrés sur l'uranium naturel, donc gardons l'uranium de retraitement. Il faudra beaucoup d'argent pour le transformer, il faudra peut-être pas l'envoyer en Russie parce qu'on est en train de se doter de l'usine pour le faire, Georges Bess 2, mais encore une fois, une usine à gaz, et ce feu-là vaut-il la chandelle, quoi.
Bien sûr. Et donc,
oui, bien sûr, tu dis. non,
pardon.
Attention.
Je me pose juste une question. Certains pays ont fait des référendums sur la question du nucléaire.
Je disais tout à l'heure que quand on consultait les populations, il arrivait plus souvent qu'une fois que les populations se prononcent contre le déploiement de cette énergie. Bah, en fait, après, bah, moi, je crois vachement à la pédagogie de la catastrophe. Donc, quand on a Tchernobyl qui explose en 1986, un référendum est voté, enfin, est proposé aux Italiens. Les Italiens, en 1987, votent le moratoire sur la construction de toute nouvelle centrale. Ils reviennent dessus, nous dit-on. Mais enfin, ils ne sont pas prêts de payer non plus 8 EPR, rubis sur l'ongle, tout de suite. Donc on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est au niveau de la reprise du nucléaire en Italie. Surtout après le tremblement de terre de l'Aquila. Mais on a vu ça en Suède. Alors, évidemment, la Suède revient un peu sur ses pas. On a vu ça en Allemagne. On vote la sortie du nucléaire. Et puis effectivement, Angela Merkel milite beaucoup avec son ami Nicolas Sarkozy pour le retour du nucléaire. Voilà. Mais le retour du nucléaire, c'est aussi un fantasme de mes confrères et consoeurs, parce que quand on regarde encore une fois les faits, le retour du nucléaire dans le monde, il n'y en a pas vraiment. Les centrales en construction, les fameuses EPR à Nauvergeon, coûtent quand même assez cher. Il y a un dépassement des factures assez impressionnant, bientôt 50% pour l'EPR finlandais. On l'avait vendu aux Finlandais 3 milliards d'euros. Il va probablement coûter plus de 5 milliards d'euros. On s'achemine probablement vers les 6 milliards d'euros. Des retards de chantier de plusieurs mois, voire années. Des agences de sûreté, les autorités de sûreté nucléaire françaises, britanniques, finlandaises, qui nous indiquent qu'il y a des défauts de conception dans les postes de commande du réacteur EPR. Pour l'instant, l'EPR n'est pas vendu partout dans le monde, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. En plus, on vient de se faire prendre un contrat à Abu Dhabi. Ouais. Les Sud-Coréens ont chopé le contrat. Donc voilà, et il y a la crise financière. Donc voilà, aux États-Unis, ils ont pragmatisme dans la peau. C'est-à-dire que les Américains, ils veulent bien les centrales si elles sont assurées et si elles sont financées. Et si elles sont financées par le privé, on va pas non plus mettre de l'argent public dans les centrales nucléaires. L'assurance depuis Three Mile Island aux États-Unis, les assureurs sont excessivement frileux pour assurer les centrales nucléaires. Et au niveau des garanties et des crédits à obtenir, c'est pas gagné non plus. Voilà. Mais on nous dit qu'il y a un retour du nucléaire dans le monde. Bon. De toute façon, on a une grande marge, puisque 6% de la consommation énergétique mondiale seulement est fournie par le nucléaire. Donc voilà, on a une grande marge.
Merci.
Enfin, moi, c'est tout.